Bien. Une petite question que j'organise un peu l'étude. Qui a commencé à explorer le chapitre 9? Personne? C'est de la non-exploration. Bien. Alors, écoutez, je vous propose, on va y arriver évidemment, que vous réfléchissiez la matinée pour savoir si vous voulez, parce que le sujet du chapitre 29, nous allons voir maintenant, c'est un sujet unique sur plusieurs références différentes, mais en fait c'est le même thème. Alors, soit vous avez un thème complémentaire que vous voudriez étudier dimanche matin, soit on réservera la séance de dimanche matin pour un développement de ce que nous avons déjà appris, c'est-à-dire je ferai une petite synthèse introductive pour ceux qui n'étaient pas là dans la semaine, et puis vous auriez des questions et réponses. Ça, vous me direz à la fin de la séance. Bien. Vous vouliez poser une question?
Peut-être que vous le développez dernièrement, comment vous expliquez l'imaginaire?
Ah bon? D'accord. Bon, je vais peut-être commencer par là. Quoique je vous en ai parlé à la fin, très brièvement, je ne sais pas si je vais vous dire plus. Hein. Attendez. Voilà, écoutez, je vous avais dit que ce que nous appelons les Yemot HaMashiach, je reprends le vocabulaire strict du Maharal. Les Yemot HaMashiach, c'est toute cette période de la troisième partie de 2000 ans, vous vous rappelez de cela, c'est le début. 2000 ans de Tohu, de chaos qui va jusqu'à Abraham. Ensuite, 2000 ans de Torah, jusqu'à la fin de la révélation prophétique, c'est-à-dire il y a à peu près 2500 ans, mais disons grosso modo 2000 ans. C'est-à-dire normalement, la prophétie aurait dû continuer jusqu'à la fin du deuxième temple. Mais comme le retour au temps du deuxième temple ne s'est pas fait en nombre suffisant, donc le Beth Amikdash, le deuxième temple, n'était pas de l'envergure du premier. Et par conséquent, historiquement, les derniers prophètes sont ceux de la génération de la destruction du premier temple, mais normalement, ça aurait pu durer jusqu'à la fin du deuxième temple, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Est-ce que c'est clair comme recodage? Bon. Et ensuite, depuis la destruction du deuxième temple jusqu'à il y a 2000 ans, et là, c'est Yemot HaMashiach. Ça veut dire, d'après le sujet que nous avons étudié, tout le temps où pouvait commencer le Malchut HaMashiach, c'est-à-dire la royauté du Mashiach. C'est clair? Bon. Le premier signe de ce temps de royauté du Mashiach, le premier signe clair de, il y a une convergence de tous les enseignements, c'est la fin de l'exil. Or, nous avons une date officielle, légale et légitime, c'est 1948. Et dans le calendrier hébraïque, c'est 1708. C'est-à-dire quoi? Tout simplement la fondation de l'État d'Israël. C'est la fin de l'exil. Bon, ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'exil pour tout le monde, mais ça, c'est la fin de l'exil pour l'histoire juive en général. C'est clair jusque-là? Bon. Et alors là, ça se produit à peu près là, à la fin de cette troisième période, selon l'analyse du Maharal, et puis commence un temps, bon, dont le premier critère, c'est la fin de l'exil. Je vous donne l'expression talmudique traditionnelle citée dans toutes les sources, c'est la fin de Shiyamud Malkoum. Ça veut dire, Shiyamud, l'oppression, Malchuyot des empires. C'est la fin du quatrième empire. C'est-à-dire, de manière symbolique, parce que vous avez énormément de dates un peu avant, un peu après, qui toutes ont leur signification, mais ça on étudie dans la Kabbalah. D'une manière symbolique, c'est la fin de Rome. Ce que nous avons étudié hier, vous vous rappelez? Je ne sais pas, qui était là hier soir, à la conférence de... Vous avez senti ce qui se passait en décalage?
J'attendais quelque chose de
tout. Non, je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait, étant donné que l'immense majorité des présents n'était pas là le matin.
Et en plus, je crois qu'il y aurait une substitution
de vocabulaire. Absolument. Bon, mais il a répété le cours du matin en langage occidental. Vous avez remarqué ça? Ah, c'était pas là, Yéma. Bon. En disant tout simplement, eh bien, l'occidental par excellence, c'est le juif. Et qu'est-ce qu'on avait appris le matin? Bon, je ne suis pas complètement d'accord avec le vocabulaire, parce que Il y a aussi les juifs des communautés orientales. Il ne faut pas les oublier. Sinon. Mais enfin, il s'agit un peu de cela, c'est-à-dire que cette identité messianique était en gestation dans la civilisation occidentale, elle en est sortie. Vous comprenez ? Mais ceux qui ne la voient pas sortir sont complètement désorientés, perplexes. Bon, on revient à l'histoire. Donc le signe clair, c'est la fin du temps de l'Église. Et l'expression est très générale chez vous de Malchouyot. Il y a une contemporanéité de la décolonisation partout, en même temps qu'apparaît l'entité politique d'Israël. Vous remarquez cette correspondance. Stop. Alors bien évidemment, il ne suffit pas d'avoir un nom sur la carte, un drapeau, des timbres-poste particuliers, etc., pour qu'il y ait vraiment indépendance. Mais il y a légalement le commencement d'une autre époque. Alors, il y a encore aliénation politique, aliénation économique, mais tout ça, ça se relie au grand problème de géopolitique mondiale, et pas seulement pour Israël, pour toutes ces nations qui, depuis 1917, commencent leur décolonisation. C'est super. Et si vous voulez, la date spectaculaire de l'acceptation par les nations en général de la décolonisation de tout ce qu'elles avaient colonisé, c'est la date de la fondation de l'État d'Israël et tout le reste autour. Je pense que c'est bien. Avec cette correspondance que je vous ai signalée souvent, que pendant 2000 ans, la civilisation que nous avons connue fonctionner sur le principe des nationalités. Et puis, d'ailleurs, Glucksmann n'a pas répondu à ma question, quoi de l'universel et du cosmopolite, bon. Et puis finalement, il s'est fait secouer par le copain de son grand-père. Bon, c'était historique, cette histoire. Pendant tout ce temps-là, l'identité d'Israël n'avait pas d'entité politique, l'exil est pur et simple. Subitement, quand les nations commencent à chercher un niveau de, alors je dirais comme hier soir, de transnationalité, mais disons de supranationalité, c'est parce que Israël sort de sa clandestinité de l'exil et doit avoir un dialogue avec un représentant de l'ensemble de l'humanité, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Alors il nous a fallu la Société des Nations pour enregistrer la déclaration Balfour. Et elle ne s'est jamais occupée de rien d'autre. Oui, vous rappelez ça. Bon. Et puis alors en 48, c'était l'ONU et qui depuis 48 ne s'occupe que de ça. Comme s'il n'y avait pas autre chose à faire. Voilà comment ça marche. Alors vous voyez, ce problème des temps messianiques, entendez bien, là, c'est pas de la mystique de vocabulaire magique. C'est de l'histoire concrète et positive. Je crois que c'est suffisamment simple. Bon, et ça nous est lu en clair par le Maharal. Alors voilà, ma chère Ben Yosef, c'est la messianité du rassemblement des exilés. Ça s'appelle ma chère Ben Yosef. Avec plusieurs signes, les arbres sur les collines de Judée. Vous vous rappelez hier ? Bon, et tout là. Ça fonctionne. Bon. Et puis alors commence un temps d'apparition de ce que le Maharal appelle dans son vocabulaire Malchut HaMashiach, okay. Ceux qui connaissent les références des autres textes, en particulier tout le 11e chapitre de Sanhédrin, que c'est le temps des guerres d'Israël. Vous savez que depuis 2000 ans, il n'y avait pas de guerre d'Israël. Il y avait la guerre contre les Juifs, c'est autre chose. Et le Mashiach a pour fonction de gagner les guerres d'Israël. Alors il fonctionne. C'est clair. C'est chose inouïe de gagner ces guerres d'Israël, alors qu'il y a à peine 30 ans, nous sortions de là où nous sortions. Bon, et puis alors, à la fin de ce temps-là, et je ne vous donnerai pas de date, mais vous pouvez calculer qu'est-ce qui se passe entre 5708, 5708 et 6000, si vous voulez. Eh bien, c'est cette chose absolument mystérieuse et dont on ne nous parle que par allusion, la résurrection des morts et le monde à venir. Voilà, il ne faut pas s'affoler, ça doit être aussi simple que la prise de Jérusalem. Parce que pendant 2000 ans, mais comment on aura Jérusalem ? Par quel miracle parachuté ça va nous arriver ? Et puis c'était très simple, une seconde d'inadvertance du roi de Jordanie. Je vous ai raconté comment c'était passé, non ? la guerre des six jours, le gouvernement israélien, qui avait des problèmes avec la Syrie et l'Égypte, a fait dire par l'ONU à Hussein de Jordanie, surtout, ne fais pas l'imbécile, bouge pas, à moins que tu veuilles nous donner Jérusalem. Alors il a répondu, aussi sec, jamais de la vie, moi je suis un musulman pieux, je sais que Jérusalem vous appartient, je vais vous attaquer pour vous rendre Jérusalem. Et c'est ce qu'il a fait. C'est clair. Et alors, on a eu Jérusalem. Bon. Et alors l'humanité entière a dit, quoi, territoire occupé. Par qui? Par les Arabes. Et comme ils ne sont pas contents, ils ont retiré toutes leurs ambassades de Jérusalem. Pour qu'il soit clair que c'est une ville juive. Une ville, j'ose dire, purifiée. Il n'y a plus aucun autre drapeau, je ne sais pas si vous avez vu. Vous voyez que ça fonctionne. Alors là, c'est pour ça que j'aurais voulu que vous lisiez au moins les premières lignes du chapitre qu'on va faire aujourd'hui, parce que vous aurez vu par vous-même la transition. À partir de maintenant, c'est une question de foi. Alors on va entrer dans le chapitre de la foi. C'est clair? Non, c'est pas. Qui a fait ça? Pas moi?
Non, pas vous.
Oui, alors vous pouvez, j'allais dire, mettre une croix dessus, enfin, mais un magen David. Je vais vous expliquer en trois mots. C'est pas le sujet, mais on y a fait allusion, je ne sais plus à quel cours, quand je vous ai parlé du massacre des innocents en terminologie chrétienne. Okay. C'est que le sionisme, en tant que mouvement politique, dans ses apparences extrêmement extérieures, n'est pas relié du tout à la Shoah. Il est relié aux pogroms qui ont commencé en Europe centrale et en Europe orientale. Et là, la prise de conscience nationale juive commence en Europe. Et alors il y a eu une tentative de l'annuler. Ça, c'est l'antisémitisme allemand, qui a essayé d'annuler la nation juive. Elle a failli réussir. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu la Shoah, l'État d'Israël serait colossal. Vous comprenez? C'est juste le contraire. C'est-à-dire, le moment du retour était venu. Mais les Juifs se sont laissés prendre au piège et ils ont failli être annulés par le nazisme. Bon, heureusement, ça s'est pas passé comme ça. Mais vous voyez ce qui se met en place. Je vais vous donner deux parallèles. Alors, ceux qui racontent qu'il fallait payer le prix de la Shoah pour avoir l'État d'Israël, ça sort de... Alors voilà, et c'est pourquoi je ne parle pas de ce problème, parce qu'on aurait pu faire l'économie de ça. Tout simplement. Ça veut dire, si on se situe avant, bon, alors on a toujours ce schéma qui était le début de la citation de la Gemara Sanhedrin qu'on a vu lundi matin. Zaha Achishena, le Zaha Beita, vous rappelez, s'il y a mérite, ça part par là, s'il n'y a pas mérite, ça part par là. Il y a toujours cette différence. Mais relisez attentivement tous les chapitres d'Ézéchiel qui parlent de cela. Il y a tout Ézéchiel. Alors je récapitule en une phrase. Ça consiste à dire, vous voulez, c'est très bien, vous voulez pas, ça sera quand même, mais avec une colère déchaînée. C'est le propre terme d'Ézéchiel. Vous voyez? Bon. Alors là, pardon. Mais bien entendu, rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de l'analyse de la notion le mérite de la génération. Nous sommes solidaires tous les hommes à la fois. Alors bien entendu, pour le même niveau, Israël c'est Israël, les Goyim c'est les Goyim. Mais c'est la même humanité. Mais comme dit Judas Lévi, que Israël c'est le cœur de l'humanité. Et il explique. C'est cela qui explique que lorsque l'humanité... C'est grave, parce que c'est simple, mais c'est très grave. Je pense. Absolument. Je pense. Oui. Et je me rappelle de cela dans une minute. C'était donc quel juif très assimilé qui avait volé comme ça au temps de Gaulle et... C'était qui Robert Aron, je crois. Raymond Aron qui disait « Moi, j'ai rien à voir avec Israël. Moi, je suis français comme un Normand peut l'être. » Ou un Auvergnat, peu importe, mais si jamais, que Dieu préserve, que vous, alors là, je suis perdu. Vous vous rappelez de ça? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y avait, je voudrais vous citer énormément de noms, on fait là encore jusqu'à midi, rien qu'avec des citations. Je ne sais pas comment vous dire, le Rav Kalischer, le Rav Al-Khalay, bon. Non, et le Rav Kook est, disons, le plus récent. Et, bon, mais c'est pas à moi qui peux demander ça, il faut leur demander à eux. Oui, je donne la parole à ça. Marie, c'est pas le sujet. Mais je comprends que la question se pose à vous. Vous étiez là depuis le début de la semaine, oui. Et écoutez, je vous dis, à ce séminaire, nous allons terminer ce sujet dans l'ordre même de l'exposé du Maharal, à ce point précis, on rentre dans un problème de foi. Une option de foi. Je crois que à partir du moment où on n'arrive pas à diagnostiquer les événements comme ils se passent, où on a beau assister, on ne voit pas, alors le Maharal a raison de dire à partir de maintenant c'est un problème de foi. Vous comprenez? C'est plus un problème d'opinion, c'est plus un problème de croyance, de connaissance, d'analyse. C'est un problème de foi, pur et simple. Mais regardez l'ordre des propositions du Maharal. Et quand ça arrive, ça, qu'on commence à parler de ce temps, bien, alors à ce moment-là, il faut parler de la foi. Ils n'ont pas la foi. Et le Talmud en parle. Hein. Vous savez, des tzadikim, tané amana. Ils étaient juste sans foi. Bon, qu'est-ce que je vais leur dire ça? On peut parler. Hein. En tout cas, cette fois-là. Oui, bon. Écoutez, vous entendrez même des rabbins. Non, j'essaie de vous expliquer qu'il faut quand même ne pas se laisser séduire par des catégories de piété, mais qui nous sont étrangères. C'est de la piété, mais barbare. Qu'est-ce que c'est ce Dieu épouvantable qui nous donnerait un marché pareil? Ah, tu veux ce petit État d'Israël que tu n'as même pas la place d'écrire le nom sur la carte? Eh bien, 6 millions d'innocents comme ça, il faut être fou. C'est clair. Tout ça est tordu et gauchi 14 fois. Il n'y a pas de... Oui. Non, je t'arrête tout de suite. On ne rentre pas dans les détails. Tous les détails sont parfaits. Il faut simplement voir les événements massifs. Simplement, je peux vous signaler en passant que dans un de ses commentaires, le Gaon de Vilna a donné la date exacte, toujours près de la proclamation de l'État. Je peux vous dire ça en passant. Et puis, vous pensez à autre chose, parce que c'est urgent de savoir maintenant qu'est-ce que dit Shulchan Aruch. Et comment on fait Shabbat ce soir, demain. Vous comprenez ça?
Il y a une deuxième petite question. Un problème intéressant, c'est que quand il y aura vraiment le rassemblement des exilés,
viendront peut-être ceux qui sont.
Écoutez, je vais vous dire.
En Afghanistan
non.
Ou en Arabie Saoudite.
Bon, je vais me borner à vous citer Maïmonide, que j'ai cité mardi soir. Donc, c'est le chapitre 11 et 12 de Ilkhot Malachim. Regardez attentivement. Et Maïmonide dit très clairement, personne ne sait comment se passera ce qui ne s'est pas encore passé. Et comme je vous dis souvent, dans le détail. Et comme je vous dis souvent, en français on dit qui vivra verra, en hébreu on dit qui verra vivra. Et c'est ça le fond du problème. Non, je ne crois pas que le problème soit de réfléchir, de savoir à quelle phase on est, mais si on va y participer ou pas. C'est ça le vrai. Oui. Oui, la Gemara de Sanhedrin dit une génération. Et avec un chiffre symbolique, si vous voulez, de 40 ans, en se basant sur le verset Samechenu Kimot Initanu Shnot Rainura. Et c'est les 40 ans du passage au désert. Ça veut dire, réjouis-nous autant de temps que nous avons vu ce mal de la traversée du désert. Vous voyez, le Maharal a expliqué déjà hier et avant-hier que ce n'est pas nécessaire que ça dure 2000 ans. Parce que finalement, l'essentiel de ce temps du Messie, c'est d'arriver à la résurrection des morts, vous rappelez de cela. C'est-à-dire à la mutation qui s'est passée au monde à venir. Et il a insisté plusieurs fois, reprenez les derniers paragraphes du chapitre précédent, 28, que ce temps du Messie est nécessaire pour faire ce passage. Et pour l'humanité entière, mais à travers ce qui se passe en Israël. Bon, alors moi je crois qu'il faudrait, si vous voulez, récapituler cela comme ça. Je comprends très bien qu'on puisse avoir des préoccupations, des détails. Bon, mais ça, il faut renvoyer aux études spécialisées de Torah Tanitha, Kabbalah. Ce que l'on peut légitimement, en tout cas au niveau des études en public, c'est désigner les événements massifs dans leur massivité. 2000 ans, c'est massif, etc. Ça, oui. Mais les petits détails, ça, non. C'est clair? Et moi, je crois que ce qui nous impressionne en tout cas le plus en Israël même, c'est la massivité de la coalition universelle autour de ce qui se passe à Jérusalem. Et alors, on est toujours désorienté quand on voit les Juifs eux-mêmes ramener ça à des petits problèmes ponctuels, ce qui se passe au Mikoharaga, ah oui, au Golan, ce qui se passe, à Jérusalem, et là, oui, à Sigaria. Pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est d'une toute autre dimension. C'est l'humanité entière autour de 3,5 millions de Juifs qui sont en train de devenir des Hébreux. La sortie des Juifs. Vous comprenez, ça a une toute autre dimension. D'ailleurs, le nombre exact, on ne vous le donnera pas, c'est un secret militaire, comme il y a juifs en Israël. Et d'ailleurs, c'est un secret public, mais ça change tous les jours. Bien, voilà, je crois que à ce niveau-là, c'est le téléphone. Et on peut décrire cette coalition, indépendamment du nombre considérable à l'échelle individuelle d'amis, des juifs, du judaïsme et d'Israël, et il y en a. Mais ils ont en commun d'être nombreux, sincères et impuissants. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que dans ce problème, la puissance appartient aux États, au gouvernement, aux hiérarchies des partis, aux hiérarchies des juifs, etc. Et pas du tout aux amis d'Israël, c'est clair. Donc, les juifs non juifs, et ils sont nombreux. Eh bien, une coalition universelle, la nation arabe, 22 États, tous les États musulmans, tous les États chrétiens, tous les États socialistes, tous les États du tiers et quoi tiers monde, plus tous les capitales. Qu'est-ce que vous dites? Alors les Juifs en plus, c'est trop. Vous comprenez un peu? Alors, c'est ce que je vous dis en vous disant la massivité des événements. Et on ne peut pas se laisser tromper dès qu'on ouvre les yeux. Bien.
Toutes les nations seront, tous les ennemis d'Israël seront jugés. Ça, c'est une question très claire, pareil. Tous les ennemis seront jugés.
Écoutez, vous me donnez la tentation, une fois de plus, pour dimanche matin, est de lire avec vous le chapitre de prophète parlant de la guerre de Gog et Magog. Bon. Ça vous donnera la chair de poule. Hein. Et puis, je ne sais pas quel coq couloir va arranger ça. Mais moi je vous propose d'éviter ces choses-là. Je vous le donnerai. Ah, vous ne serez pas là. Je vous le donne. Bien. Non, mais je ne le ferai pas. Hein. Je ne ferai pas en plus de, que le. Vous allez après faire la queue dans les pharmacies pour acheter des semi-éclairs. Ça, j'ose pas dire. Bon, allez, on va rentrer dans le chapitre 9. Il n'y a pas d'autres questions sur le sujet? Top. Voilà, alors on commence tout doucement, même si on fait qu'un paragraphe avec des références, ça voilà. Alors voilà comment le Maharal commence. Bnei El Chai. Suivez sur le texte. Bnei El Chai. Fils du Dieu vivant. Zera Abraham. Postérité d'Abraham. Toldot Yitzhak. Descendance d'Yitzhak. Non, Toldot, je veux dire engendrement, les engendrements à partir d'Yitzhak. Si vous voulez, tout cela, on pourra revenir pour expliquer, mais je vais d'abord lire la phrase. Tse-tsae Yaakov. Descendance de Jacob. Al-Yehé Katam de NRC. Qu'à vos yeux ne soient pas petits, petites choses, à Tochala, l'aspiration, vers Tikva et l'espérance, à Zot, celle-là, Shehi, Bishru, ou Vélix Daka, Olami, qui est en mérite et en justification éternelle. Quelle chose, qui est ainsi, Shru, Daka, Olami, ce d'entre vous qui avez assisté au séminaire précédent, vous rappelez de la foi d'Abraham, va yarcher vealo, iskut, ilizaka, dirachi, vous rappelez de ça? On reviendra sur le verset. Moré, cette chose-là, Moré témoigne à Zera Emé pour la. Ce peuple qui est dans l'obscurité verra la lumière au bout du tunnel. Vous vous rappelez ça? Notnim Shechmam Isbol Rolagalou, et qui donne leur épaule pour supporter le joug de l'exil, au lit bazot, et être méprisé, mais à Odegilim par les idolâtres, ou plus que les idolâtres, Zer Idan Etnim. Un temps et deux temps, une citation de Daniel, d'Abarde Beradaï mourait à l'Emna. Cette chose-là, le fait d'être capable de l'exil, témoigne de leur foi. De leur foi, laquelle? De leur foi en la fin de l'exil. Parce qu'ils ne tiendraient pas le coup dans l'exil s'ils n'avaient pas foi dans la fin de l'exil. C'est clair. Bon. Alors, si vous voulez, je vais reprendre cette phrase avant d'aller plus loin. Vous donner, enfin, quelques explications, si vous voulez, sur la forme du style. Seulement, j'aimerais bien, si quelqu'un pourrait demander à la bibliothèque un livre de Bréchi avec Rashi et Nachmani. Une crotte de Bréchi. Alors je reviens. Bon, Bnei El Chai, fille du Dieu vivant. Ça, je pense que ce n'est pas tellement nécessaire de l'expliquer. Ça se réfère à toutes les références que vous trouvez dans la Torah déjà et dans les prophètes. Qui pourrait se résumer par exemple à une des références que vous citez, Banim, Athen, Hachem El Rosh. L'Est et fils de Hachem Bosé. Béni Bechorim Israël. Israël est nommé mon fils premier-né. Ça veut dire que les autres aussi sont des fils. Bon, mais il y a un cas particulier qui est. Béni Bechori Israël. Béni El Chai. Dieu vivant, ça veut dire à travers l'histoire. Ce n'est pas du tout un concept philosophique, théologique philosophique, l'éternel, par exemple, et d'une transcendance coupée de l'histoire. Béni El Chai, ça veut dire fils du Dieu vivant. Et vivant, ça veut dire à travers l'histoire du monde. Bon, Gérard Abraham, postérité d'Abraham. Et tout de suite, nous avons l'explication que donne le Maharal. Qui nommera-t-on postérité d'Abraham? Ceux parmi les descendants d'Abraham qui ont accepté l'éventualité de l'exil. Et là, je vais commencer cette analyse de la manière suivante. Le Maharal lui-même a posé la question dans son commentaire sur la Agada de Pessah, et ça se trouve dans différents de ses enseignements. Puisque l'exil avait été déjà expliqué à Abraham, dévoilé à Abraham, comme éventualité qui s'attache à l'histoire de sa postérité, pourquoi cet exil ne commence pas à Abraham lui-même, ou à Isaac lui-même, mais doit commencer à Jacob? Parce que l'annonce de l'éventualité de l'exil, et vous le verrez dans tout le contexte de l'histoire des patriarches, est toujours corollaire de la promesse d'une descendance, de la promesse d'une postérité et de la promesse de la terre. C'est-à-dire, au fond, Abraham est dépositaire d'emblée de trois promesses. La postérité, la terre et la Torah. Et dès le début, nous voyons que à ces trois promesses s'attache la clause de l'éventualité de l'exil. Je reviendrai peut-être sur ce point de l'analyse. Et alors le Maharal explique. Si Abraham avait mis commencé l'histoire de l'exil, Ishmaël aurait été compris dans cette promesse. Si Isaac avait commencé, lui, l'éventualité de l'histoire de l'exil, Ésaü aurait été compris dans cette promesse. Il fallait donc que l'exil ne commence qu'avec Jacob, pour, comme nous avons dit dans les cours précédents, que les deux autres prétendants rivaux soient écartés de la promesse de la terre. Ça veut dire, on a droit à Eretz Israël que la descendance de Jacob, parce que seule la descendance de Jacob a accepté l'éventualité de l'exil. C'est clair jusque-là? Bon. Nous l'avons vu déjà, nous avons déjà étudié. Bon. Et pour l'éclairer, je cite là de nouveau, qu'effectivement, la descendance d'Ishmaël, c'est-à-dire l'islam, a voyagé partout, mais toujours en conquérant. Ils n'ont jamais connu ce qu'ils appellent l'exil. Jamais. C'est vrai? La Perse a perdu? Comme projet de puissance. Oui, absolument. Comme, là, je dirais conquérance, parce que c'est leur propre catégorie. Hein. L'identité de l'islam est donnée à la conquête du monde. Hein, la guerre sainte. Bon, et la guerre sainte, ça ne veut pas simplement dire ce que ça veut dire en projection de vocabulaire théologique dégradé. Il y a aussi un mouvement de signification mystique chez le musulman, enfin, chez le musulman mystique, interrogé sur tous les soucis. Dans cette notion de guerre sainte, qui est une guerre sainte contre les instincts, qui est une guerre sainte contre... Mais voilà, on situera les non-musulmans comme les porteurs d'instincts au niveau de l'histoire. C'est clair. Et de la même manière, la descendance d'Ésaü a voyagé partout, mais en conquérant. Jamais l'identité chrétienne n'a connu ce qu'est l'Église. Elle a toujours connu ce qu'a été l'impérialisme. Quel que soit le travestissement du vocabulaire. Est-ce que c'est clair, c'est clair? Ça veut dire, la seule descendance d'Abraham qui a connu ce qu'est, à proprement parler, les mots ayant leur sens simple, l'Église, c'est la descendance de Jacob. De Jacob, d'Isaac, d'Abraham. Il me semble que nous entrons dans un temps où ce schéma va se modifier. En Occident, déjà un certain nombre de chrétiens commence à avoir une conscience aiguë que la situation existentielle des chrétiens va prendre le relais de celle des juifs. C'est que, par exemple, quand vous entendez ce vocabulaire, que la France est déjà devenue une terre de mission pour les chrétiens eux-mêmes. Que ce n'est plus une terre chrétienne, mais une terre de mission. Vous comprenez ce que je veux dire? Et d'une certaine manière, le chrétien qui se veut authentique commence à connaître, et d'ailleurs il cherche à s'initier en travaux pratiques à l'amitié judéo-chrétienne, la situation existentielle du juif. Au point qu'à un certain niveau, ça va devenir peut-être un peu interchangeable, archevêque de Paris ou grand rabbin de France, je ne sais pas, hein, non, pas sûr. Et alors, ça, c'est le clin d'œil de l'histoire. Oui, mais ça a commencé avant l'exil des chrétiens libanais. Ça a commencé déjà avec les lois de la Troisième République sur les ordres chrétiens. On a commencé un peu à comprendre. Et puis je crois que dans l'islam, il y a un cas particulier, c'est tout simplement les musulmans qui vivent en Israël. C'est la première fois qu'ils découvrent la situation d'exil, un exil doré, bon, c'est un autre problème, même celui-là, on ne leur souhaite pas. Mais, et vous comprenez pourquoi, ce qu'on appelle l'entité palestinienne se présente exactement, mais dans tous les critères, dans sa prétention, comme se substituant au peuple juif. Vous avez remarqué ça? Avec lui, compris l'année prochaine à Jérusalem. Je vois si vous tuez ça. Bon. Et donc, c'est pourquoi je dis, je voudrais terminer l'analyse, c'est pourquoi je dis qu'il est probable que ce schéma dont je vous ai parlé va se modifier. Et quelle est l'inquiétude qu'il est du juif israélien? C'est qu'est-ce que va devenir la communauté juive dans cette transformation du monde de la diaspora? Est-ce que vous comprenez le problème? Bon, et je referme la parenthèse. Parce que il est bien évident, s'il y a une eschatologie catastrophique, bon, c'est la guerre atomique, c'est Gog et Magog, Élysée et l'Éclair. Bon. Qu'à Dieu ne fasse que ça arrive comme ça, peut-être on a déjà résorbé ça d'une certaine manière, et peut-être que, pour être optimiste, on se dirige vers une eschatologie bien heureuse. C'est-à-dire qu'il y aura la paix avec l'Islam. Il y aura la paix avec l'Islam, il y aura la réconciliation avec l'Islam. Que deviendra la diaspora? Parce que finalement, où sera la diaspora d'Israël? À travers l'Islam régénéré pour l'Orient, à travers la chrétienté mise au point pour l'Occident, que vont devenir les Juifs? Vous comprenez? Alors, dans tous les cas, on est là devant un problème. Donc, il faut dire, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne peut pas savoir. Mais il est bien évident que le schéma que j'ai commencé à vous décrire va finir par... Je vais raconter une petite anecdote. Après la guerre de Sigier, un journaliste, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, un journaliste a demandé à un officier israélien, mais comment vous reconnaissez les juifs de Java? Et l'officier a répondu, ceux qui ont un regard juif, nous savons que c'est les Arabes. Et qu'est-ce que ça veut dire un regard juif? Eh bien, vous savez ce que ça veut dire un regard juif? Le regard traqué. Elle dit, voilà, ils se ressemblent, mais nous ne pouvons les distinguer avec les yeux. Regardez, je me balade à Paris de temps en temps, et je vois venir avec un sentiment très bizarre, un moment où on n'arrivera plus à reconnaître les Arabes nord-africains, les Juifs nord-africains à Paris, surtout quand ils se déguisent en Louvain. Je ne sais pas si vous êtes le juge. Ça commence à se ressembler. Et il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez de quoi je parle? Je rentre dans un café près du Luxembourg, je passe devant les vitrines là, je dis bon, cela c'est qui? Louvain plus, Louvain moins, ou des cabines? Vous voyez ce que je dis? Alors dès qu'on regarde les yeux, on voit voir, ça y est, c'est encore différent. Mais je t'attends, je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a un problème de mutation d'identité qui est en train de se produire. Partout. C'est-à-dire, vous aurez des chrétiens de bonne foi qui vont commencer à fonctionner comme les juifs de l'exil, et vous aurez des musulmans de bonne foi qui vont prétendre prendre le relais de l'exil des juifs. Et je crois que ça se dénouera avec les Palestiniens. C'est-à-dire, le seul, pour le moment, le seul type d'Ismaël avec qui on va commencer peut-être un jour à s'expliquer, ça va être eux, parce qu'il n'y a qu'eux qui connaissent déjà, depuis 48, la situation des Juifs. Je ne parle pas du tout des Palestiniens qui sont en dehors de la terre d'Israël. Je parle de ceux qui sont en Israël. Ils sont en train d'expérimenter qu'est-ce que ça veut dire, horreur, blasphème, être en exil chez les Juifs. Alors, c'est là que, le jour où on parlera de paix et pas de guerre, c'est là que le dialogue va commencer. Bon, alors d'un côté comme de l'autre, notre problème c'est, qu'est-ce qui va arriver des juifs de diaspora? Ça y est, c'est clair? Bon, eh bien, j'en sais rien. Voilà. J'en sais rien. Voilà. Et ne me demandez pas où le Gaon de Vilna a parlé de ça, je ne sais pas. Bon, alors ça c'était pour expliquer vers Arabra. En avant. Bon, alors maintenant il y a Toldot Yitzchak. Alors là, je vous parlerai très brièvement de ce mot de Toldot, mais ça renvoie pour beaucoup d'entre vous à des études déjà faites.
Mais là, c'est une chose peut-être
très importante. De trois manières, un, deux, trois, quatre peut-être. Voilà. Donc, l'autre, c'est le pluriel de Tolada, qui signifie donc tout notre problème de définition des déroulements de l'histoire,
et dans l'entrée.
Bon, pas comment on peut prendre. C'est dans l'entrée. Bon. Très bien. Ça veut dire, première note, très importante, pour la tradition hébraïque, pour la tradition juive, l'histoire, ce n'est pas d'abord les événements. Ce n'est pas d'abord la succession des événements. Ça, ça peut s'appeler historien. Bon, il y a aussi un nom en hébreu pour ça, mais ça peut s'appeler historien. Il y a une. Ce qui se passe, jour après jour. L'histoire, c'est l'histoire du sujet de l'histoire, c'est-à-dire l'homme. L'histoire, c'est modification de l'homme à travers l'histoire. C'est-à-dire de l'engendrement du fils de l'homme à partir de l'homme. C'est les soldats de, à partir de Adam Hachou. Bon, alors vous verrez que ce mot de soldats, vous avez écrit, là je vais me brancher sur le cours de l'église, vous avez écrit suivant les versets, soit comme ça, on l'appelle Malé. Malé, ça veut dire l'écriture est pleine de toutes les lettres. Vous voyez, il y a ce rave et celui-là. C'est écrit avec deux raves. Là, vous trouverez qu'il y a 13 fois le mot soldats dans toute la Bible.
13 fois.
Vous trouvez ici comme ça la première fois et la dernière fois. Alors la première fois, c'est au début du chapitre 2 de la Genèse, et la dernière fois, c'est dans le livre de Ruth, oui, lorsqu'on annonce les engendrements du roi David. Alors la première fois, le mot soldat est malé, plein, c'est un vrai engendrement, et la dernière fois aussi, un vrai engendrement. Jusque-là, à travers donc les 11 fois qui entrent la première et la dernière, vous voyez, c'est toujours aussi à faire. À faire, ça veut dire, soit il manque un vave, celui-là ou celui-là, soit il manque les deux. Alors, une fois, il manque les deux vaves, c'est dans le verset qui parle des soldats d'Ishmaël, et qui est écrit comme ça, sans les deux vaves. Partout d'ailleurs, c'est une ou l'autre qui manque, jusqu'à ce qu'on arrive à l'engendrement du roi David, alors là, on retrouve le mot soldat malé. Vous comprenez ce qu'il y a derrière cette remarque, hein? Ça veut dire qu'au début, il y a un projet de l'engendrement de l'homme, de l'engendrement réussi plein, une vraie grossesse, une conception immaculée, machin cadeau. Pour Adam, et elle est pour d'autres, à son même barret, c'est une barret âme, et Adam a eu la voix de sa Adama, va y faire la chaîne avec une autre Adam, vers le ciel du chapitre. Oui. Regardez le début du chapitre. On a créé un monde pour engendrer un vrai homme. Alors, l'histoire commence, l'histoire de l'engendrement. Et puis c'est si, continuellement, chasser, jusqu'à ce qu'on arrive à l'engendrement de l'identité messianique qui commence avec ce que les historiens appellent la dynastie davidique. Bon, le roi David. C'est clair. Hein? Alors là, de nouveau, soldat est mal. Ça vous direz, le livre de Ruth, c'est dans le dernier chapitre. Bon. Je vous signale d'ailleurs que je me suis laissé dire que la journée biblique de la vie de l'eau, cette année, c'est sur le livre de Ruth. Bon. Bon, mais vous avez étudié avec la vie de cette année. Oui. Que disent les femmes habituées? Bon. Voilà ce que je veux dire. Une fois, on nous indique soldats complètement chassés, complètement vides, complètement impasse, c'est les soldats de Ishmaël.